Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Une émission en forme d'hommage à Bruno Latour. Le grand sociologue nous a quittés le 9 octobre dernier. L'un des plus grands sociologues français a consacré un livre à la sociologie du superfail, à la sociologie de l'échec. Et ça n'est pas son livre le plus célèbre. Il s'intitulait cet ouvrage « Aramis ou l'amour des techniques » aux éditions de La Découverte. Et nous devions réparer cet oubli. Et pour tenter de comprendre pourquoi Aramis, un projet révolutionnaire de métro, pourquoi Aramis a-t-il échoué, nous nous sommes rapprochés de Jérôme Denis. Il est enseignant-chercheur au Centre de sociologie de l'innovation. La voix de Bruno Latour, c'était en 2007.
La meilleure métaphore pour comprendre Aramis, c'est la rétraduction de l'ours dans les Pyrénées. C'est des problèmes d'être. Il faut beaucoup d'autres choses pour que l'ours puisse survivre. Il faut l'accord des mères et même la sympathie des habitants du coin et des bergers, plus évidemment des oursonnes, plus une multitude d'autres activités, plus la législation européenne pour arriver à faire tenir une innovation dans un milieu qui lui est hostile. Le problème, c'est quand on prend les innovations du point de vue uniquement technique, qui n'en est encore qu'une fois qu'une toute petite partie de leur être, on les réduit de beaucoup et on oublie l'écologie. C'est comme si vous vouliez faire un enfant avec juste un spermatozoïde et un ovule et puis rien d'autre autour.
On écoute Jérôme Denis nous présenter le projet Aramis.
Alors Aramis est un projet un peu curieux, considéré comme révolutionnaire, d'une espèce de mode de transport qui est une sorte d'hybride entre un mode personnel et un mode collectif, très autonome, et d'être considéré comme donc sans conducteur, mais aussi pouvant s'arranger, se réarranger soi-même, puisqu'il s'agissait en fait de doubles voitures qui pouvaient produire des rames de plusieurs longueurs, en quelque sorte s'associer entre elles, mais automatiquement et en même temps se détacher aussi. Donc c'était un mode de transport assez révolutionnaire et autonome, développé en parallèle du VAL qui, lui, a été véritablement mis en place.
Ce qui est singulier dans l'histoire d'Aramis, c'est que le projet était parfaitement viable techniquement. Mais alors, pourquoi a-t-il échoué ?
Alors pourquoi ça n'a pas marché ? Voilà, c'est toute la question du livre. Et c'est un vrai livre qui se lit comme un roman d'enquête, presque policier, qui se demande qu'est-ce qui a tué Aramis, d'un certain point de vue. Pendant l'enquête, ça se complique de plus en plus. Et c'est toute la beauté de ce livre, c'est que finalement, on est perdu, et on est perdu jusqu'à presque la toute fin, puisque à la fin du livre, ou quasiment à la fin, cet enquêteur, cet élève des mines, arrive avec 21 versions d'Aramis, et aucune n'est complètement satisfaisante. Alors c'est un point très important, parce que c'est aussi une position de sociologue qu'applique ici Bruno Latour, et qui a été développée avec de nombreux collègues, notamment Michel Calon, aussi au Centre de sociologie d'innovation à l'époque, qui consistait à dire on ne peut pas complètement trancher. Si les gens ne sont pas d'accord à ce point-là, il n'y a pas de raison que le sociologue décide de ce qui n'a pas fonctionné. Par contre, après avoir listé ces 21 versions, l'enquêteur s'est dit « bon, je vais retourner lire un des derniers rapports qui a été fait ». Tout d'un coup, il se rend compte de quelque chose qu'il n'avait pas bien vu, c'est que Aramis n'a pas bougé depuis 73-74, où on a commencé à présenter le projet, et 84-85, où on fait les rapports finaux qui consistent à dire « tout va bien se passer », juste avant qu'on l'abandonne. Il n'a pas bougé d'un poil. C'est le même, exactement le même projet. Et ça, l'enquêteur a l'intuition, aidé par Norbert, l'alias de Bruno Latour, que ça n'est pas tout à fait normal et que ça n'est pas bon signe. Parce qu'une invention, une innovation, pour véritablement être mise en œuvre, elle doit se transformer. Et toute innovation est une affaire de traduction de ce que Michel Calon appelait aussi des intéressements, et donc une affaire de compromis. Et ce que, finalement, comprend à la toute fin de cette enquête ce stagiaire élève des mines, c'est que le projet a souffert d'une absence de compromis.
L'échec d'Aramis ne repose pas sur quelqu'un en particulier, c'est un échec collectif. Le projet n'a pas été assez aimé, il n'a pas été assez accompagné par ses créateurs, et c'est pour cela qu'il n'a pas vu le jour.
Latour dit dans ce livre que c'est un projet technique très complexe, mais qui était très fragile. Il était très fragile, notamment parce qu'il avait des défis d'automatisation, de ce que Bruno Latour appelait des délégations, c'est-à-dire que ce gros agencement devait faire tout un tas de choses à la place des humains. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire, évidemment. Et ça, ça témoignait d'une forme de fragilité qui avait besoin d'un accompagnement très grand pour gagner en consistance. C'est-à-dire que c'est une innovation qui devait gagner en solidité progressive. Et cette solidité, elle n'était pas purement technique. Elle est forcément socio-technique. C'est-à-dire qu'elle est affaire d'alliance, elle est affaire de transformation, elle est affaire d'hybridation. Et ce que dit Latour et ce que dit l'enquêteur à la fin de ce parcours d'enquête, c'est que finalement, personne ne s'est vraiment engagé dans cet exercice très coûteux qui consistait donc à faire gagner en consistance à Aramis, ce qui veut dire à le transformer et ce qui veut dire à faire des alliances entre toutes ces personnes qui finalement sont un peu restées chacune de leur côté avec des définitions qui n'étaient pas très compatibles de ce qu'était Aramis et sans les confronter et sans donc négocier ce que devait finalement devenir Aramis.
L'une des conclusions principales de l'ouvrage de Bruno Latour, c'est qu'une innovation est toujours la conséquence d'un compromis. Elle n'est jamais parfaitement retranscrite dans la réalité.
Il y a quelque part dans le livre une expression de Latour qui dit « la perfection n'est jamais donnée sens ». Et alors, il fait régulièrement des références à la famille, ou aux enfants, ou au couple. On peut très bien considérer que toute innovation est comme une personne, enfant, qui se transforme et qui est accompagnée par sa famille, mais qui évidemment se transforme sans arrêt et dont on accompagne la transformation. Alors, il me semble qu'il y a un parallèle qui est très intéressant à faire avec ce qu'on est encore en train de vivre avec le véhicule autonome, par exemple, qui est ces voitures qui étaient censées déjà être dans nos villes depuis très longtemps et circuler sans aucun problème, telles qu'imaginées par ces inventeurs, et dont on voit que finalement, les quelques cas qui aujourd'hui fonctionnent et sont déployés et circulent dans les villes ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'on imaginait être des véhicules autonomes au départ. Ils ont été transformés, ce sont des navettes qui sont souvent sur des voies spécifiées pour elles. On a transformé un peu l'environnement, on a un peu transformé ce qu'elles étaient capables de faire et ce qu'on leur demandait de faire par rapport à ce qui était imaginé au départ. Et donc ça, c'est vrai, et c'est le socle, on va dire, des théories de l'innovation de Bruno Latour et de ses collègues, a consisté à montrer que toute innovation ne suivait pas une espèce de trajectoire qui serait rectiligne, qui consisterait à dire on a défini des questions techniques, ensuite on va passer l'épreuve du marché, par exemple, et puis on va passer l'épreuve de l'utilisation et de ce qu'on appelle de manière assez discutable la question de l'acceptabilité sociale, hein, comme s'il y avait la technique, puis après l'économie, puis après le social, et puis que voilà, c'est une épreuve, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, ce qu'on voit quand on étudie les innovations, y compris les échecs, et les échecs sont très intéressants pour ça, c'est que toute cette version linéaire n'existe nulle part, et que ce qui fonctionne, c'est au contraire des hybridations, des transformations, des négociations pour fabriquer des assemblages sociotechniques ou des agencements sociotechniques, des choses qui sont à la fois sociales, économiques, techniques, en même temps, d'un certain point de vue. Et certainement pas une technologie qui part d'un point A et qui finit à un point B qui serait son déploiement.
Pour Bruno Latour, pour qu'un projet réussisse, il faut tout d'abord avoir beaucoup étudié les échecs, mais aussi toujours aménager des lieux de concertation démocratique pour que le compromis puisse avoir lieu et que l'innovation se diffuse.
On a pensé que c'était une affaire de développement technique, alors qu'il aurait dû fallu faire de la recherche. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire quel est le temps qu'on se donne et quelles sont les arènes que l'on se donne pour produire les conditions de la recherche. Et ça rejoint beaucoup le travail qu'avait fait Latour et qu'a continué à faire Latour, évidemment, mais qu'il avait fait avant ce livre, qui était de la sociologie des sciences. Et ça rejoint l'idée de la science telle qu'elle se fait. Puisque Latour avait enquêté sur les conditions réelles, entre guillemets, très pratiques de production des faits scientifiques, en montrant que, là aussi, on n'était pas dans une affaire linéaire d'une réalité qui attendait à être découverte, qui était découverte quasiment sans intervention par les chercheurs et qui ensuite était publiée comme un fait scientifique. Là aussi, c'est une histoire d'hybridation, là aussi, c'est une histoire d'alliance. Donc, ce que dit Latour, et en fait, il développe déjà les questions qui vont être les siennes plus tard, de parlement des choses, de questions démocratiques, qui sont ouvertes en fait aussi aux objets techniques, c'est qu'il aurait peut-être fallu, et il faudrait arriver à cultiver des endroits, des lieux dans lesquels on puisse produire justement ces compromis, c'est-à-dire faire de la politique avec de la technique et assumer que les innovations techniques sont toujours aussi des innovations qui vont avoir des conséquences et des dimensions politiques. Et au lieu de masquer ça, au lieu de le mettre à l'extérieur du moment de développement technique, il faudrait le réintégrer pour produire des arènes de ce qui aurait pu être de la recherche au moment où Aramis était en voie de constitution, mais qui assume qu'on va être nombreux à discuter, à produire des compromis qui sont toujours politiques. Et donc c'est une affaire, au final, de démocratie technique, qui est une grande question aujourd'hui, parce qu'évidemment, une partie des très grosses innovations qui nous entourent sont assez peu développées et mises en œuvre dans un processus démocratique, au sens qui est entendu par Latour dans ce livre et dans tout son travail.
Dernière chose, cette sociologie de l'échec en dit beaucoup sur la pensée de Bruno Latour.
Ça dit qu'elle a une sociologie très particulière, et d'ailleurs, dans tout le livre, il commence ou il continue quelque chose qui est quand même tout au long de la trajectoire de Latour, au moins pendant les 30 premières années ou les 25 premières années, qui est une espèce d'écart par rapport à une sociologie plus traditionnelle qui ne s'intéresserait qu'aux êtres humains, déjà, et qui ne les écouterait pas forcément beaucoup, par ailleurs. C'est-à-dire une sociologie qui saurait mieux que les acteurs eux-mêmes, comme il disait avec un Z dans certains de ses articles et de ses livres. C'est une sociologie qui est un héritage déjà long, hein, notamment dans la sociologie américaine, mais c'est une sociologie qui prend au sérieux ce que les gens disent. C'est pour ça, en fait, qu'il se refuse de trancher, par exemple. Quand il a ses 21 versions d'Aramis, il ne se sent pas, lui, sociologue, de dire « bon, la vraie version, c'est celle-là ». En fait, le problème était un problème parce que les politiques n'avaient pas soutenu. Ou le problème était parce que ce n'était pas viable économiquement, par exemple. Et puis peut-être l'autre point qui est assez discuté aussi longuement dans le livre, c'est cette manière de considérer que les objets techniques, ce que Latour a appelé les non-humains pendant longtemps, et qui va ouvrir après à d'autres choses que les objets techniques, mais évidemment à des éléments de l'environnement, de la flore et de la faune notamment, font partie en fait d'un monde et de la société dans laquelle on vit. Et donc il faut aussi prendre au sérieux et interroger et comprendre le fait qu'ils agissent. Ce sont des entités qui agissent, et à partir du moment où ces entités agissent, il n'y a pas de raison de faire un tri qui serait l'héritage au moins de Descartes, qui consisterait à dire il y a les humains d'un côté, voilà, qui sont d'un certain point de vue complètement à part sur la planète Terre, et qui sont dotés de formes d'action et de formes d'intelligence qui ne sont absolument pas les mêmes que celles des autres entités sur Terre, et puis tout le reste. Voilà, ce tri-là, Latour, dans ce livre-là, très clairement, refuse de le faire, et pousse, il continue comme ça à travailler sur qu'est-ce que ça veut dire si on considère que nos sociétés sont des sociétés sociotechniques, c'est-à-dire composées à la fois d'acteurs humains et d'acteurs non humains, et que ce sont des assemblages entre ces deux choses-là qui agissent, qui font des choses, et qui agissent y compris économiquement, politiquement, socialement. Donc c'est le refus d'une distribution trop grande qui refuserait, en l'occurrence, je reviens à votre première question, de dire « bon, c'est un échec technique ». Parce qu'on pourrait aussi dire que les sociologues pourraient arriver et dire ben « non, c'est un échec en fait politique ». Qui serait purement politique, comme il y aurait un échec purement technique. Bon, voilà. Latour n'aime pas trop la pureté, et il n'aime pas trop les réductions, et d'où son très beau texte « Irréduction », un de ses premiers textes en français magnifiques, qui résume en fait beaucoup sa sociologie et toute son œuvre.
Aramis est la preuve qu'une bonne solution technique peut être un désastre sociologique. Les non-humains, comme les appelait Bruno Latour, et les humains doivent apprendre à coopérer ensemble s'ils veulent réussir ensemble. Superfell a été gâché à la production par Juliette Deveau, ruiné à la technique par Jean Frédérix et enfin dévasté à la réalisation par Vivien Demeyer et Mydia Portis-Guerin. Superfell.